Comme vous l'avez entendu depuis vendredi, l'antenne de France Inter a été totalement bouleversée avec les sessions d'information, les programmes qui se sont adaptés pour suivre les événements parisiens. Nous avons décidé de maintenir aujourd'hui la tête au carré telle qu'elle était prévue afin de reprendre un peu de souffle au milieu de cette sombre actualité. Je vous signale quand même que mercredi, notre rendez-vous psy et philo recueillera différentes paroles en réaction aux attentats. En attendant, l'émission donc aujourd'hui est consacrée au centenaire de la relativité générale, le contexte de la naissance de cette nouvelle vision du cosmos et les changements profonds qu'elle a entraînés. Avec mes invités, vos questions, tous vos messages, dès maintenant, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Émission en partenariat avec l'Institut Henri Poincaré et l'hebdomadaire Le 1. Et puis à la une de la science aujourd'hui, le phénomène El Niño qui est de retour et qui se distingue déjà par son intensité, Axel Villard.
Bonjour Mathieu, oui, l'Organisation Météorologique Mondiale tiendra dans moins d'une heure une conférence de presse et selon les experts, El Niño 2016 est mature et puissant. On fait le point sur les conséquences dans un instant avec vos questions sur Twitter.
Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission préparée aujourd'hui par Emmanuel Fournier avec Carole Sauvage.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les 100 ans de la relativité générale, c'est donc le dossier de la tête au carré dans un instant avec mes invités que je salue, Nathalie Dorwell, Alain Riazuelo et Elie During. Bonjour,
bonjour
à tous les trois,
bonjour.
Bienvenue. Alain Riazuelo, pourquoi cette deuxième théorie d'Einstein, donc 1915, provoque autant de fascination ?
D'abord parce que c'est une théorie qui a été trouvée par la seule force de l'esprit, il n'y avait pas de support expérimental ou observationnel. Et ensuite parce que par la seule force de l'esprit, on s'est retrouvé capable de décrire l'univers dans son ensemble, ce qui était unique dans l'histoire des sciences.
La force d'un esprit ?
Essentiellement,
mais on va voir qu'il était quand même précédé de choses absolument déterminantes, hein, Albert Einstein, bien sûr. Nathalie Dorwell, est-ce que les physiciens, 100 ans après donc, les débuts de cette théorie, la maîtrisent parfaitement ?
Ils la maîtrisent certainement mieux qu'il y a 100 ans, heureusement. Mais c'est une théorie qui avance main dans la main avec les mathématiques les plus avancées du temps. Il faut donc maîtriser ces mathématiques. Et un exemple parmi d'autres, c'est le fameux exemple des trous noirs.
Oui.
Est-ce qu'on maîtrise parfaitement ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs quand on rencontre la singularité qui est en son cœur ? On arrive aux confins de la théorie et donc la théorie a encore un bel avenir.
Bon, c'est une question qu'on posera évidemment à Alain Riazuelo, spécialiste des trous noirs. Elie During, quel est le point commun entre alors, les deux théories, hein, la restreinte 1905 et la théorie de la relativité générale en 1915 ?
Pour répondre sur un plan technique et aussi sur un plan philosophique, sur un plan technique, ça peut paraître paradoxal, mais le point commun, c'est la générale.
Oui.
Puisque la relativité restreinte peut être considérée comme un cas limite de la relativité générale dans des domaines extrêmement restreints, des régions très infinitésimalement petites de l'espace-temps de la générale. Philosophiquement, le point commun, c'est l'espace-temps, justement. C'est ce concept englobant espace et temps qui sont plus un simple cadre formel ou une arène dans laquelle on distribuerait des corps en mouvement et des forces, mais qui, espace et temps, qui prennent une véritable signification physique en étant articulé, fusionné en un certain sens dans l'espace-temps.
Oui. Et donc une théorie qui a également modifié les esprits, comme on le verra avec vous. On va se retrouver donc dans quelques minutes pour comprendre ce que représente cette théorie de la relativité générale, donc 100 ans tout juste après qu'elle ait été dévoilée par Albert Einstein. J'attends vos messages sur le site de l'émission.
La Une du Climat, en partenariat avec Reporter.net. Le quotidien de l'écologie.
Et comme tous les lundis avant la COP21, nous vous retrouvons Hervé Kempf, journaliste pour Reporter. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Alors justement, avant de parler d'El Niño, notre sujet de une dans un instant, la COP21, après les attentats de vendredi, est-ce qu'elle aura bel et bien lieu ? Oui, hein, ça a été dit, mais dans quelles conditions ?
Elle aura lieu certainement, Laurent Fabius l'a dit dès samedi, lors de la réunion internationale à Vienne. Elle aura lieu, ça a été confirmé. Dans quelles conditions ? Sans doute de sécurité immense. On peut craindre une COP21 bunkérisée.
Ouais.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point aussi, à côté de la COP21 officielle, il y avait en quelque sorte la COP21 de la société, des citoyens. Et celle-là risque d'être fortement perturbée par des mesures de sécurité. Ce matin, sur une autre radio, RTL, Manuel Valls a dit que toute une série de concerts et de manifestations plutôt festives seront sans doute annulées. En fait, on peut penser que toutes les actions qui étaient prévues par la société civile non violente, mais de manifestations, de démonstrations, de débats, pourraient être bloquées. Si vous me permettez une phrase d'éditorialisation, ça serait très dommage, parce que l'on sait maintenant que le climat ne peut pas être seulement l'affaire des spécialistes, ne peut pas être seulement l'affaire des gouvernements. Il faut que les citoyens s'y impliquent, les citoyens et les citoyennes, et les tenir à l'écart en disant, au nom de la sécurité, vous ne pouvez rien faire, restez chez vous, ça serait d'une certaine manière le symptôme que Daesh a gagné.
Et pourtant, c'est ce qui se trame, a priori. Hein.
On va voir, c'est quand même, la discussion reste ouverte. La coalition Climat 21, qui réunit toutes les ONG et associations qui réfléchissent à ces manifestations pacifiques, se réunit ce soir. Le gouvernement va en discuter d'ici mercredi. On va voir ce qui va se passer, notamment si l'état d'urgence est déclaré et confirmé pour une période longue.
Allez, notre sujet de une, c'est le phénomène El Niño qui est de retour et qui ressemble trait pour trait à celui de 98. Petit rappel.
L'enfant terrible du climat est synonyme de calamité. En Indonésie, les feux de cet hiver, à peine éteints par une faible mousson, viennent de reprendre de plus belle. Épidémie, torrent de boue, une saison de pêche compromise par des eaux trop chaudes, le Pérou n'est toujours pas sorti d'un chaos déclenché cet hiver. Et le phénomène gagne du terrain. C'est presque toute la planète qui est chamboulée, avec des inondations sans précédent en Somalie, un typhon particulièrement violent et dévastateur au Vietnam.
Voilà, c'était en 1998 et aujourd'hui l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, tient en ce moment même une conférence de presse au sujet du phénomène El Niño 2016 et elle précise déjà que les mesures de température de surface dans l'océan Pacifique ne laissent plus de doute, le phénomène monte en puissance. Bonjour Boris De Witt.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes océanographe et physicien à l'IRD. Hervé, pour commencer, un petit mot sur le communiqué de presse de l'OMM envoyé ce matin.
Ce que confirme l'OMM, c'est ce que les climatologues disent depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, c'est que El Niño devrait être extrêmement fort cette année. El Niño, rappelons-le, c'est un phénomène naturel en soi qui se traduit tous les 3 à 7 ans par un changement, un déplacement des eaux chaudes. En gros, dans le Pacifique, les eaux chaudes sont à l'ouest, les eaux froides sont à l'est le long du Pérou, et ce phénomène El Niño se traduit périodiquement par un réélévation de la température des eaux côtières le long de l'Amérique latine. Et là, l'OMM nous dit que on devrait avoir un des plus forts El Niño enregistrés. Le dernier, vous l'avez rappelé dans le reportage, c'était en 97-98. Celui de cette année pourrait être plus fort avec un réchauffement de la température de 2 degrés Celsius.
Boris De Witt, est-ce que vous pouvez nous expliquer, après les explications d'Hervé Kempf, en quelques mots, qu'est-ce qui se passe pour créer ce phénomène El Niño dans le Pacifique ?
Alors, effectivement, donc El Niño, après le cycle des saisons, c'est effectivement la pulsation la plus importante du climat, donc aux échelles de temps au-delà de la saison. Et pour comprendre El Niño, il faut déjà comprendre la situation normale où on a des alizés dans le Pacifique, donc qui est l'océan le plus grand de la planète, des alizés qui s'ouvrent d'est en ouest et qui vont pousser des eaux chaudes vers l'Indonésie. Et au-dessus de ces eaux chaudes, on a un courant d'air ascendant qui va donner à la circulation atmosphérique globale son énergie. Alors ces alizés, ils entraînent des eaux chaudes vers l'ouest, mais en même temps, ils ont tendance à ramener des eaux froides le long des côtes du Pérou et d'Équateur. Alors qu'est-ce qui se passe pendant El Niño ? C'est que ces alizés vont s'affaiblir soudainement et vont même s'inverser. Et donc toute la chaleur accumulée à l'ouest va basculer dans le centre du bassin et jusqu'aux côtes d'Équateur. Donc voilà.
Et ce phénomène, il impacte justement tous les autres phénomènes météo de la planète ?
Alors effectivement, puisque on touche à un océan immense, lorsqu'on va déplacer cette zone d'eau chaude, on va perturber toutes les structures météorologiques dans la ceinture intertropicale. Et donc ça se traduit donc très régionalement à l'échelle du bassin Pacifique par des pluies diluviennes au Pérou, comme ça a été mentionné. Mais effectivement, une perturbation de la mousson, qui a une tendance à affaiblir la mousson, des sécheresses dans le nord de l'Australie, enfin toute une série de perturbations aux alentours du Pacifique en tout cas.
Hervé Kempf, parmi les conséquences déjà visibles, il y a les feux qui ravagent l'Indonésie depuis quelques semaines déjà.
Tout à fait, des feux extrêmement importants, des tourbières et des forêts tropicales de Sumatra et de Java et de Bornéo, et qui sont largement liées certes à la déforestation induite par les plantations d'huile de palme, mais aussi par le fait qu'il y a une sécheresse extrêmement importante que maintenant les climatologues attribuent à El Niño. Ces événements en Indonésie ont relâché une quantité extrêmement importante de CO2 dans l'atmosphère.
Oui, alors justement, Boris De Witt, on fait le lien direct entre réchauffement climatique et phénomène El Niño ?
Alors c'est une question très compliquée parce que on a très peu de recul en fait sur l'observation d'El Niño. Il faut savoir que sur les 60 dernières années où on a vraiment des mesures assez précises, il n'y a eu que deux événements El Niño extrêmes, donc celui de 82 et de 97. Et celui qui s'annonce donc va être un El Niño fort, ça on en est quasi certain. À savoir si ce sera un événement extrême, c'est une autre question. Donc les statistiques des événements extrêmes est difficile à établir sur la base des observations. En revanche, les modèles effectivement tendent à montrer que sous l'influence du réchauffement climatique, on aura une tendance à plus d'événements extrêmes de type des El Niño extrêmes comme on peut en voir un en ce moment.
El Niño concerne le Pacifique et sous nos latitudes, le contre-coup s'appelle La Niña. Est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose de particulier en Europe avec La Niña 2016?
Alors, effectivement, au niveau statistique, statistique linéaire, on montre effectivement qu'on a un lien plus direct entre le climat européen et les événements La Niña. Et il se trouve qu'après des événements forts, on a généralement une situation de La Niña modérée à fort. Et donc, on peut imaginer en effet que le climat européen soit impacté par l'évolution prochaine de la situation en cours.
Merci Boris De Witt pour vos explications. Au moment donc où l'Organisation Météorologique Mondiale tient en ce moment même une conférence de presse sur le phénomène El Niño 2016. Merci beaucoup Hervé Kempf. On trouve des informations sur les incendies indonésiens, entre autres sur reporter.net. Merci Axel.
À demain.
Allez, à demain. Dans un instant, la relativité générale, c'est le centenaire.
Si tu savais mon cœur, rien. Si tu savais mes yeux, rien. Si tu savais mes mains, rien. Si tu savais mes reins, rien. Si tu savais mes jambes, rien. Si tu savais ma peau, rien. Si tu savais mes cris, rien. Si tu savais mes nuits, rien. Mais si seulement tu savais la taille de mon âme.
D'un cheval galopant, c'est littéralement qu'il faut le prendre. On ne vit pas suffisamment, précisément, désespérément. Je suis le roi du rock, perfecto, tout de noir vêtu. Blanches sont mes vertus. La vie te descend, pam, pam, eux te disent va de l'avant. Je ne veux pas, je ne peux pas, je ne sais pas vivre le règne glorieux de sa majesté. Les mouches, s'ils n'entendent pas qu'ils aillent se faire. Mon cœur déjà bat à rebours. La vie du réhénissement d'un cheval galopant. C'est littéralement qu'il faut le prendre. On ne vit pas suffisamment. Précisément, désespérément, je suis le roi du rock. Perfecto, tout de noir vêtu. Blanches sont mes vertus. Cette vie est écœurante. Pourquoi m'as-tu mise au monde, maman? Je ne crois plus, je ne vois plus comment me souvenir. Que l'homme est bon, ma résurrection sous les auspices d'Aragon. Que l'homme est con, la poésie ne mène qu'au panthéon. La vie du réhénissement d'un cheval galopant. C'est littéralement qu'il faut le prendre, on ne vit pas suffisamment. Précisément, désespérément, je suis le roi du rock. Perfecto, tout de noir vêtu. Blanches sont mes vertus. La vie te descend, eux te disent va de l'avant. Je ne veux pas, je ne peux pas, je ne sais pas vivre le règne glorieux de sa majesté. Les mouches, s'ils n'entendent pas qu'ils aillent se faire. Mon cœur déjà bat à rebours. La vie du réhénissement d'un cheval galopant. C'est littéralement qu'il faut le prendre, on ne vit pas suffisamment. Précisément, désespérément, je suis le roi du rock. Perfecto, tout de noir vêtu. Blanches sont mes vertus.
Si tu savais mon cœur, rien. Si tu savais mes yeux, rien. Si tu savais mes mains, rien. Si tu savais mes reins, rien. Si tu savais mes jambes, rien. Si tu savais ma peau, rien. Si tu savais mes cris, rien. Si tu savais mes nuits, rien. Mais si seulement tu savais la taille de mon âme.
Daniel Darc, et c'est Abdel Malik à l'instant.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Et nous avons un extrait d'un film de Quentin Lazzarotto qui s'appelle La relativité, une histoire singulière.
Au XXe siècle, on me connaît sous le nom de Albert Einstein et pour mon équation E égale mc². Je voulais comprendre la nature grâce aux mathématiques. J'ai eu une vision nouvelle de l'architecture de l'univers. J'en ai fait une théorie, la relativité générale. C'est une théorie sur la gravitation, cette force mystérieuse de notre univers qui attire les étoiles et les planètes entre elles. Avant ma théorie, la gravitation était depuis 250 ans le domaine du grand scientifique Isaac Newton. Ma théorie a complètement bouleversé le monde de la physique et de la mathématique.
Et les 100 ans de cette relativité générale, c'est donc dans le dossier de l'émission aujourd'hui en partenariat avec l'Institut Henri Poincaré et l'hebdomadaire Le 1 qui consacre le numéro de cette semaine à Einstein, un génie au carré. Mes invités, Nathalie Dorel, vous êtes physicienne, spécialiste donc de cette théorie. Vous publiez de Pythagore à Einstein tout un nombre, c'est aux éditions Belin. Alain Riazuelo, vous êtes astrophysicien, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris. Vous signez-vous un article sur les trous noirs dans le magazine Le 1 donc cette semaine. Et puis Élie During, vous êtes maître de conférences en philosophie à Paris 10 Nanterre. Vous avez coordonné en 2005 à l'ENS le colloque Einstein chez les philosophes, la réception philosophique de la relativité. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages franceinter.fr et sur les réseaux Facebook et le compte Twitter. Novembre 2015, 100 ans après donc sa théorie de 10 ans après sa théorie de la relativité restreinte, Einstein donc offre au monde une œuvre scientifique extraordinaire, cette théorie de la relativité générale. 100 ans plus tard, cette découverte semble absolument inépuisable. Et donc demain, l'Institut Henri Poincaré va présenter à 19h30 au cinéma Le Grand Action à Paris un film documentaire, La Relativité, une histoire singulière. Il y aura une projection publique à l'Institut mercredi à 19h30. Nathalie Deruel, est-ce que cette théorie a émergé miraculeusement comme ça en novembre 2015 ou est-ce qu'elle est le fruit au contraire d'une longue histoire de la physique et des mathématiques ?
C'est une histoire qui a peut-être 25 siècles. Il ne faut peut-être pas remonter si loin, mais c'est certainement une histoire qui avait au moins 10 ans, puisque oui. La relativité restreinte date de 1905. Mm-hmm. Donc c'est 10 ans d'efforts quasiment constants d'Einstein pour arriver, franchir une étape supplémentaire, et une espèce de dernière course au mois de novembre 1915. Oui. Et puisque nous vivons en ce moment des périodes difficiles, rappelons qu'au mois de novembre 1915, quand Einstein met au point les dernières équations de sa théorie, il y avait chaque jour plus de 1000 morts sur les champs de bataille. Et je pense que c'est un exemple de voir que Einstein et Hilbert, puisqu'ils communiquaient ensemble sur les détails de leur théorie, a continué pour mettre au point son grand œuvre.
Ouais. Alors quel écho justement à cette théorie en plein milieu de la guerre ?
Eh bien, elle a été tout de suite reçue par les professionnels. Mmh. Et en particulier, Alain Riazuelo est un grand spécialiste des trous noirs. Karl Schwarzschild, qui était un astronome, qui était sur le front russe, moins de 3 semaines plus tard, a trouvé une première solution de ces équations mathématiquement très difficiles et qui est au cœur de la compréhension de quantités de phénomènes que l'on observe aujourd'hui dans l'univers.
Ouais, donc Alain Riazuelo, c'est vraiment un écho considérable à l'époque, même en 1915, au milieu de la guerre ?
Ça reste restreint au cercle scientifique. Ouais. La théorie va devenir vraiment connue en 1919, quand après la guerre, des scientifiques anglais, notamment Arthur Eddington, décident de tester le plus précisément possible la nouvelle théorie d'Einstein. C'est fait dans un but scientifique, mais aussi dans un but tout à fait louable de réconciliation des peuples. Un Anglais qui vérifie la théorie d'un Allemand, c'est assez courageux à l'époque. Et donc, le meilleur moyen de tester la théorie d'Einstein, c'est d'observer le Soleil pendant une éclipse, non pas pour l'observation du Soleil, mais pour l'observation des étoiles d'arrière-plan que l'on peut observer à proximité du Soleil grâce au fait qu'il est éclipsé, et vérifier que la position apparente de ces étoiles n'est pas celle attendue, parce que le Soleil défléchit légèrement la trajectoire des rayons lumineux. Et quand Arthur Eddington annonce au monde qu'il a vérifié cette prédiction...
En quelle année ?
En 1919.
Oui, c'est
l'éclipse
ça, ouais.
est en le 29 mai 1919. Les résultats sont annoncés quelques mois après.
C'est la preuve expérimentale
voilà,
y de avait, la théorie. C'est ce qui manquait jusqu'alors.
Il y avait un résultat qui était déjà connu avant que Einstein ne propose sa théorie. Il y avait une anomalie dans l'orbite de Mercure que Einstein explique, mais... Ouais. C'est toujours plus satisfaisant en science de vérifier une prédiction que comprendre a posteriori un résultat expérimental. Ouais. Donc la déflexion de la lumière par le Soleil permise par l'observation du Soleil pendant les éclipses, c'est la première prédiction vérifiée et ça... Ça fait passer Einstein à la postérité presque
c'est
instantanément.
La mais il aura fallu attendre 4 ans au fond. Hein.
Voilà, parce que l'époque est troublée, parce que aussi cette observation est difficile. Avant ouais. Einstein, des gens avaient envisagé que les masses puissent modifier la trajectoire de la lumière, mais ils n'avaient pas réussi à mettre cet effet en évidence. C'est un effet ouais. qui est difficile à faire. L'éclipse de 1919 est particulièrement favorable pour mettre cet effet en évidence. Et donc, c'est à ce moment-là que ça marche.
Et les Turing, ça veut dire que cette théorie de la relativité générale, c'est avant tout une fulgurance de l'esprit d'un homme, Albert Einstein, puisque avant même l'expérimentation, voilà, il propose son équation, son calcul.
Il y a eu un certain nombre de fulgurances chez Einstein lui-même. Faudrait suivre. Il y a eu plusieurs, il y a eu des étapes. Il y a eu des moments de grande déprime aussi, si j'ai bien compris. Et puis des collaborateurs, et puis des gens qui, parallèlement, on citait Hilbert tout à l'heure, travaillaient aussi sur des théories proches, et parfois selon des lignes un peu différentes. Mmh. Après, ce qui est intéressant, pour revenir à la réception, c'est aussi de voir à quel point la réception philosophique a accompagné de très près, en fait. Alors, les philosophes sont des créatures assez lentes d'esprit, mais là, pour le coup, on peut dire que les choses se sont assez rapidement cristallisées, et c'est à peu près au même moment que la théorie se généralise auprès du public scientifique large et que ouais. les philosophes se l'approprient et que le grand public aussi, alors là sur un mode imagé, parfois avec de grandes incompréhensions, mais enfin très tôt, les philosophes accompagnent la diffusion de la relativité, même auprès du grand public scientifique.
Ouais. Mais pourquoi justement les philosophes sont touchés précisément par cette théorie ? C'est parce qu'elle a trait tout simplement au cosmos hein ?
Je dirais qu'elle a très plus fondamentalement, et c'est ça qui était apparent dans la diffusion de la première relativité, celle de 1905. Dès 1911, Paul Langevin, physicien français, s'adresse au Congrès international de philosophie, devant un parterre de philosophes, pour leur raconter la théorie restreinte.
Ouais.
Et ça frappe immédiatement les esprits, parce que ce qui est très évident, c'est que ça touche aux concepts, aux catégories fondamentales de l'esprit, celle de temps, celle d'espace, notamment celle de temps.
Mmh.
Et je dirais que la relativité générale, qui arrive, disons, 10 ans plus tard, aggrave le problème.
Pour ce qui est du temps, en tout cas. Oui, justement.
Alors, je partage tout à fait ce que dit Élie Düring. Les philosophes ont tout de suite été intéressés par la relativité, essentiellement, comme vous le dites, parce que ça touchait à la notion de temps. Et savoir que le temps, que jusqu'à présent, on pensait, d'un point de vue philosophique et physique, comme étant universel, le même pour tout le monde, dans l'univers entier, et bien que ça, c'était quelque chose à revoir,
ouais.
et que maintenant, chacun, en un sens, avait son propre temps.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Expliquez-nous, alors, puisqu'il faut revoir cette notion de temps.
Bah, ça veut dire que vous avez une montre à votre poignet,
mmh.
et c'est le temps à la montre de votre poignet qui est votre temps. Alors évidemment, là, nous sommes immobiles l'un par rapport à l'autre, donc nos deux montres font tic-tac à peu près en même temps.
Ouais.
Mais si moi, je m'éloignais de vous à toute vitesse, eh bien mon temps deviendrait différent du vôtre. Et en revenant, nous n'aurions plus, je serais plus jeune que vous peut-être.
Oui, on va expliquer ça aussi dans un instant.
Et ça, c'est le paradoxe, qui n'était pas un paradoxe, comme Elie Düring le connaît très bien, des jumeaux de Langevin, qui ont été très très popularisés, et qui a fait en particulier la gloire d'Einstein quand il est venu en France en 1922, pour parler de ces deux théories.
Oui.
La restreinte, surtout du temps, et la générale, qui étaient les problèmes de gravitation, plutôt.
Elie Düring, qu'est-ce que ça nous raconte, alors, cette histoire du paradoxe des jumeaux, avec l'un qui part en voyage et qui revient plus jeune que l'autre?
Oui, l'histoire, c'est ce qui vient d'être raconté, sauf que si on remplace, c'est encore plus frappant, si on pense à des jumeaux. Alors, des jumeaux dont l'un est cosmonaute, il part pour un voyage stellaire de 2 ans, il rebrousse chemin à mi-chemin, donc il est accéléré, il faut revenir.
Oui.
Et quand il revient, son frère jumeau, alors il y a différentes versions, dans la version optimiste, il s'est passé 20 ans pour lui, oui, comme pour tout le monde sur la Terre, donc il est plus vieux, de 18 ans. Et dans la version pessimiste, ça dépend de la vitesse, la vitesse du voyage, il revient et 200 années se sont écoulées et tout le monde est mort. Et donc l'idée met en scène en fait un paradoxe qui peut être vérifié dans des accélérateurs de particules et de toutes sortes de manières, c'est-à-dire qu'en effet, l'accélération a pour effet de déphaser les temps, ou en tout cas de rendre sensible le fait que les temps propres des corps, des individus, ne fluent de façon synchrone que par accident, en quelque sorte. La règle générale, c'est qu'ils sont désynchronisés tout le temps, parce que les choses sont en mouvement, parce que les corps accélèrent les uns par rapport aux autres, pour toutes sortes de raisons, et notamment à cause de la gravitation, par exemple.
Oui.
Alain-Riel Ouzello, c'est quand même difficilement conceptualiser une telle notion. Enfin, c'est bouleversant pour le cerveau quand même, non?
Oui, et il faut accepter d'être parfois déboussolé par un résultat scientifique qui change notre intuition commune du monde.
Allez, on se retrouve dans un instant. On poursuit la découverte de cette théorie de la relativité générale avec vos messages sur franceinter.fr.
fois qu'on a les objets qui sont présents dans l'univers, il va falloir déterminer le champ de gravitation qu'il crée, c'est-à-dire la géométrie de l'espace-temps.
Pour cela, il fallait résoudre une équation que j'avais mis 8 ans à établir. Je l'ai écrite ainsi, g mu nu est égal à 8 pi g sur c4 fois t mu nu. Une seule équation. Quelques signes mathématiques seulement pour décrire notre univers.
À partir d'une hypothèse mathématique, il ouvre une voie qui est toujours celle d'aujourd'hui. C'est incroyable. On aurait pu penser que ça ne marcherait pas.
Et pourtant, ça marche. C'est là que la théorie commence à vivre sa propre vie, à révéler des propriétés de la nature que l'on n'avait pas prévues. La géométrie courbe impliquait que le temps ne passait pas partout dans l'univers de la même façon. La gravité influence le temps. Plus le champ de gravitation est important, plus le temps ralentit. Cela a dérouté tout le monde. Moi aussi.
Voilà, c'est Albert Einstein qui parle donc dans ce film documentaire « La relativité, une histoire singulière » que vous pourrez voir mercredi donc à l'Institut Henri Poincaré. Nathalie de Ruel, Alain Riazuelo et Elie Düring sont mes invités. Nathalie de Ruel, une seule équation qui fait basculer le monde dans une nouvelle conception justement du cosmos. Est-ce qu'on peut dire que la première victime au fond de cette théorie de la relativité générale, c'est Isaac Newton ?
Non, en un sens, c'est l'aboutissement d'Isaac Newton. Chaque grand homme dans l'histoire des sciences est assis ou debout sur les épaules d'autres géants. Mmh. Donc Newton était le géant qui a précédé Einstein. À mes yeux, quelque chose de très important quand on passe d'une théorie à une autre, d'un grand homme à un autre, c'est le rôle des mathématiques. Newton a bâti une théorie de la gravitation au XVIIIe siècle, dans son époque, en utilisant les mathématiques de son époque, qui étaient les mathématiques grecques, il a d'ailleurs beaucoup amélioré. Einstein, pour aller de l'avant, a utilisé les mathématiques de son temps, qui étaient toutes récentes. On a parlé de géométrie courbe dans l'extrait du film. Et ça, Einstein l'a découvert. Ces mathématiques-là, il les a utilisées. Et c'est pour ça que l'équation magnifique de Newton, F égale M gamma, avec F, cette force en 1 sur R2 de l'attraction universelle, est devenue ce G mu nu égale T mu nu, une autre équation qui gouverne le monde.
Alain Riazuelo, c'est un bond en avant considérable, en tout cas, hein, par rapport à Newton, que propose Einstein.
Ça justifie, en fait, quelque chose qui gênait Newton. Newton disait, je peux expliquer tous les mouvements dans le système solaire si je suppose qu'il y a une force qui s'exerce instantanément suivant une certaine loi. Et Newton était frustré de ne pas avoir pu démontrer ça. C'était un fait expérimental, finalement, qu'il avait mathématisé. Et Einstein justifie a posteriori, en fait, la formule de Newton. Donc, elle pose un cadre théorique plus rigoureux, elle pose aussi les limites à cette formule de Newton qui était, en fait, approximée, mais aussi, elle montre toute sa pertinence en la justifiant de façon extrêmement convaincante.
Ouais. Donc, Elie Düring, on pourrait dire que c'est une extension, au fond, d'Isaac Newton ?
C'est une extension, un accomplissement, un approfondissement aussi, parce que il y avait des notions chez Newton, enfin, je ne rentre pas dans le détail des équations, mais des notions comme celle de force, précisément, la force gravitationnelle qui était un peu mystérieuse, qui semblait arriver de l'extérieur au corps. Donc, il y a des corps en mouvement, et puis du fait qu'ils étaient massifs, bon, ils s'attiraient et donc ils s'accéléraient les uns les autres. Et cette force était quelque chose qui se rajoutait. Enfin, conceptuellement, c'était pas bien intégré tout ça. Ce que réalise l'espace-temps à géométrie courbe, c'est d'intégrer la notion de force gravitationnelle dans l'espace-temps et d'en faire en fait une dimension ou disons un aspect géométrique de l'espace-temps. Donc on va dire, dans un champ gravitationnel, ce qui était représenté comme une accélération sous l'effet de l'exercice d'une force gravitationnelle va être pensé simplement comme une géodésique d'espace-temps, c'est-à-dire la ligne la plus droite possible dans un univers courbe, ce sera le chemin d'espace-temps que prendra une particule ou un corps accéléré dans un champ de gravitation. Et ça, c'est un coup de génie, parce que ça revient en fait pas simplement à trouver le cadre mathématique qui formalise tout ça. Ça revient conceptuellement aussi à se débarrasser d'une sorte de surplus, d'excédent, de résidu, qui est cette notion de force un peu occulte, très suspecte aux yeux des philosophes, et qui restait un peu comme une scorie dans le système. La force devient une dimension, un aspect de la géométrie de l'espace-temps.
Alors Christophe sur Twitter demande justement, l'espace est un tissu élastique que les masses déforment, mais la déformation se fait dans quoi ? Est-ce dans le vide, Nathalie Dorvel ?
Alors, c'est cette image auquel fait allusion le...
Christophe, notre auditeur.
L'auditeur Christophe est une image que l'on voit très très souvent, qui d'ailleurs est extraite d'un, d'études mathématiques des années 20. Mais il faut la prendre avec un grain de sel, comme on dit. Parce qu'en fait, il faut plutôt imaginer l'espace à trois dimensions. Nous sommes là dans une salle. Nous avons chacun, comme je l'ai dit tout à l'heure, la montre à notre poignet. Et nous flottons dans une espèce d'océan qui symbolise un peu cet espace courbe, qui est un espace donc qui n'est plus rigide, dans lequel on évolue. Et donc chaque astre évolue librement dans cet espace courbe. Mais aux environs de chaque astre, parce qu'il faut quand même pouvoir retomber un petit peu sur ses pieds et sur la physique qu'on apprend au lycée, au voisinage de chaque astre, à notre voisinage, à nous, on peut créer notre petit coin où on est en chute libre et où nos horloges vont pouvoir être à peu près synchronisées et où on retrouve localement, autour de chacun d'entre nous, notre petit carré de la relativité restreinte et des notions plus standards. Donc on peut imaginer qu'on est des bathyscaphes flottant un peu à la dérive dans l'océan, mais qu'autour, on peut créer notre petit univers solide.
Alain Riazzuolo, pour compléter.
Oui, on a tendance encore à imaginer qu'il y a un substrat parfaitement rigide et que l'espace-temps se déplace ou se déforme à l'intérieur de ce substrat. Ce que la mathématique utilisée par Einstein pour la relativité dit, c'est qu'on n'a pas besoin d'un espace extérieur rigide. L'objet le plus général qui existe est lui-même un objet qui n'est pas rigide. Quand on dit que l'univers est en expansion, on ne dit pas qu'il s'étend dans quelque chose d'extérieur. C'est l'espace qui gonfle de lui-même, en lui-même. Et donc cette idée-là, elle est effectivement au moins aussi troublante que cette idée de temps qui ne s'écoule pas de la même façon pour les observateurs. Mais c'est ce que, expérimentalement, on vérifie de façon de plus en plus précise avec des mesures que permettent la technologie moderne.
Et Lidering ?
Dans le même ordre d'idée, je crois que, de même que c'est un peu trompeur d'imaginer que l'espace-temps se déforme sous l'effet de quoi que ce soit, c'est aussi trompeur de dire, comme on l'a entendu dans le sujet, dans le film, que le temps ne flue pas de la même façon en différents endroits de l'espace-temps, que le temps ralentit parfois. Alors moi-même, j'ai pu le dire en expliquant les jumeaux. C'est commode de dire que si le jumeau voyageur revient plus jeune, c'est que son temps à lui, son temps propre, s'est ralenti. Mais en vérité, qu'est-ce que ça veut dire que le temps flue ? Bon, le temps, il flue toujours à la même vitesse, une seconde par seconde. Ce qui se passe réellement, ce qu'on constate, c'est des déphasages de durée. C'est-à-dire quand on réunit des horloges ou des jumeaux et qu'on confronte les horloges, y compris les horloges biologiques, on s'aperçoit qu'il y a des effets de déphasage constants. Bon, est-ce que de là, il faut en inférer que le temps serait une sorte de super-substance un peu mystérieuse, une dimension de l'espace-temps qui serait variablement dilatée, comme on dit que l'espace-temps lui-même est variablement courbé ? C'est une image, ça véhicule immédiatement une image, et aussi un concept un peu étrange, comme si le temps était un gros machin, qu'on mesurait de diverses manières, et qui serait capable de se dilater, de se tendre, à la manière d'un corps, quoi. Or, le temps, c'est pas ça. Ce que nous apprend aussi la relativité, c'est que le temps, en fait, c'est un concept formel assez éloigné des observations empiriques, et qui se résume pas à ce que montrent les horloges.
Ouais. Alors justement, il y a une question de Larry, Alain Riazzuolo. Comment conceptualiser cette notion d'espace-temps ? L'espace-temps est-il un référentiel ? Est-ce qu'il est composé de quatre dimensions ou plus ?
Alors, on a besoin de quatre nombres pour repérer un événement. Le lieu où il est, c'est trois nombres. Et le moment où ça se produit, c'est un nombre. Mais il est évident que quand on fait ça, il faut préciser comment on mesure les distances, par rapport à quoi. Il faut se donner un cadre sur comment on effectue un métrage de l'espace, finalement. Et par bonheur, dans la plupart des situations de la vie courante, c'est pas quelque chose de très compliqué, mais dans certaines situations, ça peut le devenir. Quand vous avez des objets qui sont soumis à des champs gravitationnels très forts, quand vous avez des vitesses relatives très importantes, toutes ces notions doivent être précisées avec soin.
Mmh. Un courriel de Hugues qui nous dit ceci. Je viens d'apprendre pendant l'émission que le paradoxe des jumeaux était qu'un des deux était plus jeune que l'autre. Il me semble que ce n'est pas ici que se situe le paradoxe, mais c'est le fait que chaque jumeau voit l'autre plus jeune que lui par réciprocité du phénomène paradoxe de la relativité restreinte. Vous voulez répondre, Nathalie Dorouel?
Je veux bien, mais je pense que Elie Düring est un grand spécialiste de...
Des jumeaux.
Des jumeaux, oui.
Alors, allez-y.
Non, mais bon, en deux mots, c'est tout à fait juste, hein, la remarque. Le paradoxe apparent, parce que les paradoxes sont toujours apparents, et celui-ci en particulier, c'est qu'en effet, ça devrait être réciproque. Chacun devrait pouvoir dire la même chose de l'autre si on envisageait les mouvements comme parfaitement relatifs. Si je m'éloigne de la Terre, de mon point de vue, c'est la Terre qui s'éloigne de moi. De mon point de vue, je suis toujours immobile dans mon propre référentiel, mm-hmm. par définition. Donc à tout instant, je suis immobile par rapport à moi-même, et c'est tout le reste qui bouge. Donc, si on suit ce raisonnement, on aurait envie de dire le jumeau sédentaire qui reste sur Terre, par un raisonnement tout à fait symétrique, il devrait se considérer lui-même comme étant plus jeune, puisque, en un certain sens, c'est lui qui a voyagé. Bon, alors, il se trouve que non. Et bon, une des raisons, c'est qu'il y a en fait une asymétrie profonde entre les deux, c'est qu'il y en a un qui fait demi-tour, et pas l'autre. Il faut au moins qu'il y en ait un des deux qui fasse demi-tour, sinon il se retrouverait jamais. Et bon, il se trouve que c'est celui qui, en l'occurrence, subit des accélérations. Il peut même les sentir dans son corps. Hein. S'il est dans la navette, on fait pas un demi-tour, même en prenant son temps, sans que ça ait des conséquences immédiatement sensibles. Il reste quand même une impression de gêne. C'est-à-dire qu'on se dit, si on prenait une situation idéale, c'est-à-dire juste, imaginons que tout disparaisse et qu'il n'y ait plus que ces deux jumeaux qui flottent dans leur bathyscaphe, vous disiez tout à l'heure, et qu'on évalue, on s'intéresse à leur mouvement relatif. On serait bien embêté pour dire lequel bouge vraiment, en fait, s'il n'y avait rien d'autre, s'il n'y avait pas l'univers tout autour ou l'espace-temps variablement courbé dans lequel ils sont plongés. Et c'est parce que les philosophes ont une tendance à l'abstraction et qu'ils ont tendance à prendre les choses en un sens très radical qu'ils ont été égarés parfois par ce paradoxe, parce qu'ils ont essayé de penser la situation à l'état pur.
Et ça, c'est difficile. Et c'est même impossible.
C'est juste physiquement... physiquement, ça n'a pas de sens d'imaginer deux corps absolument... qui bougent relativement l'un à l'autre, indépendamment de toute toile de fond cosmologique. Ça n'a juste pas de sens.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de notre discussion.
Jangles and he'll dance for you in worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, baggy pants. He would do the old South shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touchdown. Told me of a time you worked with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is Dog and he? They would travel about, but his dog up and died. Caught up and died. After 20 years he still breathes. He said, I dance now and every chance in honky-tonks, for my drinks and tips, but most of the time I spent behind these county bars. You see, son, I drink so bad. Then he shook his head. Oh Lord, when he shook his head, I could swear I heard somebody say, please, please. That's Mr. Bojangles, calling Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, come back.
Mr. Bogan Jungles avec Robbie Williams à l'instant.
La tête. Je ne crois pas que je sois spécialement impatient, Canon, mais je voudrais savoir combien nous prendra un tel voyage.
Au carré.
Seulement 2543 ans, 4 mois et 10 jours. Je sais que vous aimez l'exactitude. Je vous en remercie.
Sur France Inter.
Est-ce que... il y a la moindre possibilité, disons, je sais pas, un super moyen peut-être de tous sauter dans un trou noir, de récupérer les années. Gardez vos airs supérieurs.
Le temps est relatif, ok? Il peut s'étirer ou se contracter, mais... en aucun cas, il ne peut faire marche arrière. En aucun cas, non. Et la seule chose qui soit en mesure de traverser les dimensions telles que le temps, eh bien, c'est la gravité. Écoutez, Cooper, j'ai merdé. Je suis désolée. Mais vous connaissiez la relativité. Oh.
Ma fille avait 10 ans. Les théories d'Einstein, elle était trop jeune pour que je lui apprenne.
Voilà, extrait du film Interstellar qui amuse beaucoup Nathalie Derouel, apparemment. C'est leur conception des trous noirs qui...
Non, j'étais impressionnée par le dialogue.
Oui, bien sûr, la haute qualité du dialogue, certainement. Alain Riazuelo, justement, les trous noirs, l'existence, ils ont été prédits par Einstein ?
C'était une conséquence de la théorie d'Einstein. Mais pendant longtemps, en fait, on se retrouvait avec un objet qui était une sorte d'entité mathématique qu'on a eu du mal à bien comprendre. Et donc, entre 1916, l'année où Karl Schwarzschild, quelques mois après la publication des équations d'Einstein, trouve cette solution, et le moment où on commence à bien comprendre que cette solution a une certaine cohérence mathématique, il va s'écouler plus de 20 ans. Ouais. Et il va s'écouler encore une vingtaine d'années avant qu'on réalise que ces objets peuvent effectivement se former dans la nature. Et il faut attendre la toute fin des années 70, donc plus de 50 ans après l'invention de la relativité, pour avoir des preuves observationnelles que ces objets existent. Ouais. Donc c'est un objet qui est longtemps resté purement conceptuel. Ce qui est assez rare en astronomie. En astronomie, en général, on découvre des objets qu'on ne comprend pas, auxquels on donne un nom qui est un peu fantaisiste, parce que on confère à ces objets des propriétés qui ne sont pas celles qu'ils ont réellement. Là, dans le cas des trous noirs, c'est le contraire. On a trouvé le nom approprié à ces objets parce qu'on les a conceptualisés avant. Mm-hmm. On a mis du temps avant d'être sûr qu'ils existaient réellement.
Oui. Donc les trous noirs, hein, leur existence, leur prédiction, les ondes gravitationnelles également.
Alors aussi, c'est une autre prédiction de la théorie qui a été faite quelques années après sa publication et qu'on a eu toutes les peines du monde à détecter indirectement à la fin des années 80 ou fin des années 70, je ne sais plus, et qu'on n'a pas encore détecté directement.
C'est ça.
On espère que dans les années qui viennent, ce sera le cas, mais c'est la prédiction la plus difficile à mettre en évidence de la théorie.
Ouais, Nathalie Derouel, est-ce qu'il y a des petites erreurs mathématiques dans cette théorie de la relativité générale ? Est-ce qu'elle a été remise en cause par moment, malmenée ?
Ah, ça c'est un sport auquel les physiciens adorent. Ouais. C'est-à-dire on leur donne des équations, là c'était G minu égale T minu, qui, il faut vraiment insister, elles ont 100 ans ces équations. Rien, aucune observation, et Dieu sait qu'il y en a eu en 100 ans, ne remet en cause ce G minu égale T minu.
Donc c'est du solide.
C'est du solide. Mais pour bien comprendre la solidité des équations, c'est vrai dans tous les domaines de la physique, il faut les faire parler, ces équations. Il faut les démonter. Et il faut aussi les changer certains ressorts pour savoir qu'est-ce qui se passe si on change un aspect de ces G minu égale T minu. Et ça, on l'a fait dès le départ. Einstein lui-même a passé les 20 dernières années de sa vie à essayer de construire des théories qui iraient au-delà de ce G minu égale T minu. Et actuellement, il y a des théories concurrentes de la relativité générale, toutes les semaines, dans les journaux spécialisés, mais qui, jusqu'à présent, ne font que confirmer la solidité du cœur dur de la relativité générale.
Aucune nouvelle proposition, hein, pour l'instant.
Ah, des propositions, des théories, si, il y en a tous les jours.
Enfin, aucune valable.
Mais aucune observation observationnelle, mais des grands questionnements pour savoir, on sait que la théorie a ses limites, comme toute théorie, que quand on tombe dans un trou noir ou au début du Big Bang, il y a des domaines où la théorie n'est probablement plus valable. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé, et on espère la trouver, la théorie englobante.
Alors justement, Alain Riazuelo, Jean nous dit ceci, s'il n'y a pas d'échelle de temps absolue, comment est-ce qu'on peut dater le Big Bang, s'il vous plaît ?
C'est une très bonne question. On peut le faire parce que l'univers à l'échelle où on l'observe, c'est-à-dire quelques dizaines de milliards d'années-lumière, est un univers qui est extrêmement homogène. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vous êtes, vous observez que la densité est là. En moyenne, est la même partout. De sorte que l'écoulement du temps perçu par deux observateurs différents qui seraient sur deux galaxies différentes est a priori le même. Donc ils seraient tous d'accord un peu par hasard pour un temps qu'on pourrait presque appeler universel. Bon, dans la littérature, ça s'appelle le temps cosmique, mais ça reproduit cette idée, qu'on peut utiliser pour dater les événements, puisque tous les observateurs percevraient ce même temps cosmique. Sur des très grandes échelles, l'univers n'est sans doute plus homogène comme ça. Et donc sur des très grandes échelles, effectivement, cette problématique de comment dater l'univers ou comment établir la chronologie de l'univers, c'est quelque chose de plus difficile. Fort heureusement, ça ne nous concerne pas parce que c'est bien au-delà de l'univers observable que ça se produit éventuellement.
Il y a beaucoup d'applications concrètes, justement, de la théorie de la relativité générale, pour qu'on comprenne bien.
Alors, l'application que tout le monde connaît, c'est le GPS. Mm-hmm. C'est-à-dire que le principe du GPS, c'est des satellites qui sont en orbite, qui émettent des bips qui donnent leur position. Et donc, vous, sur Terre, vous recevez ces signaux de satellites et par triangulation, vous savez où vous êtes. Mm-hmm. Pour vous positionner avec une précision de l'ordre du mètre, qui est ce dont vous avez besoin pour pas vous perdre en voiture, vous avez besoin de tenir compte notamment de toutes ces problématiques d'écoulement du temps différent, d'une part parce que les satellites bougent, d'autre part parce qu'ils ne sentent pas le même champ gravitationnel que nous parce qu'ils sont en plus haute altitude. Et donc, ça nous sert dans la vie de tous les jours. Mm. Il y a aussi d'autres applications à plus long terme, c'est que on sait maintenant mesurer la différence d'écoulement du temps avec des horloges dont la hauteur diffère de quelques centimètres seulement. Ce qui fait que dans ce contexte, en fait, vos horloges dont vous allez mesurer les différences d'écoulement du temps, elles vont vous permettre de sonder l'intérieur de la Terre. La Terre n'est pas parfaitement sphérique, et donc on va faire de la géologie grâce à des horloges extrêmement précises et aux effets de relativité qui affectent l'écoulement de leur temps.
Et Deering, elle inspire toujours autant les philosophes?
Oui,
la théorie de la relativité générale.
Oui, évidemment. Et les exemples qu'on vient de donner montrent dans quelle direction il faut travailler. C'est-à-dire que la question, c'est celle, non pas de l'unification du temps, au sens où on pourrait retrouver quelque chose comme un temps universel. Ça c'est fini. Le temps universel, c'est en effet un effet d'échelle. À un certain niveau, étant donné l'homogénéité qu'on trouve à une certaine échelle, on va pouvoir s'entendre sur un temps cosmique. Mais c'est un temps parmi d'autres. Il y en a plein d'autres. Et à différentes échelles. Et donc, au fond, la question qui est léguée aux philosophes et à d'autres, c'est celle, non pas de l'unification des temps, mais de, disons, un défi qui est d'imaginer des modes de coexistence, des modes de simultanéité, de synchronie distribués sur différentes échelles et qui donnent quand même encore un sens à l'idée selon laquelle on vit dans un même univers, dans un même monde. Il n'y en a qu'un, au fond. Et s'il n'y en a qu'un, il faut que, d'une certaine façon, il devienne, il soit lui-même en devenir, d'une manière qui le fait, en un certain sens, durer d'une pièce. Il ne peut pas durer multiplement s'il est un. Et pourtant. Voilà des questions.
Nathalie Dorouel.
Un des legs de la relativité générale, on a parlé des applications, mais c'est aussi la vision du monde que nous avons maintenant, la vision du cosmos. Nos arrière-grands-parents voyaient l'univers des étoiles tout autrement que nous, sans parler des Grecs, évidemment. Et ça, c'est peut-être le legs principal d'Einstein, c'est que l'humanité entière voit le cosmos différemment.
Donc c'est toute notre conception de la nature, en fait, qui a été bouleversée par cette théorie.
Par G menu égale T menu.
Voilà, on le retient bien grâce à vous. Merci beaucoup, Nathalie Dorouel, c'est ce livre de Pythagore à Einstein. Tout est nombre, la relativité générale, 25 siècles d'histoire, c'est chez Belin, dans la collection Pour la Science. Je signale justement un numéro spécial Pour la Science sur Einstein, 100 ans après. Et puis n'oubliez pas, donc, avec l'Institut Henri Poincaré au Grand Action demain, donc le film La Relativité, une histoire singulière à 19h30, mais vous aurez également l'occasion de la voir le 18 et 20 novembre, donc cette semaine à 18h30 directement à l'Institut Henri Poincaré, rue Pierre et Marie Curie, avec aussi la bibliothèque de l'Institut qui va accueillir une exposition qui va retracer toute l'histoire de la théorie de la relativité. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Fabrice, bonjour.
Bonjour.
Affaires sensibles, dans quelques secondes. Sensible
avec un programme changé, puisque vous savez que nous sommes de plein pied dans cette émission dans le passé récent et ses résonances dans l'actualité. Nous allons vous rediffuser l'émission qui racontait la chute de Mossoul. Mossoul, ville en Irak, est l'un des deux fiefs de Daesh. Donc d'où vient Daesh? Que veut Daesh? Nous en parlerons également avec un nouvel invité pour le coup, Nicolas Hénin, journaliste qui avait été pris en otage.